9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, on accueille Georges-Marc Benhamou, Philippe.
Bonjour Georges-Marc Benhamou.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes journaliste, producteur, écrivain. Parmi vos ouvrages, je vais citer Le Dernier Mitterrand qui est devenu un film. C'était Le Promeneur du Champ de Mars avec Michel Bouquet ou encore Comédie Française, dans lequel vous racontiez votre expérience à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, dont vous avez été un temps l'un des conseillers. Votre actualité, vous produisez avec Patrice Duhamel et vous menez des interviews avec lui d'une collection consacrée à d'anciens premiers ministres. Ça s'appelle Si la France savait. C'est tous les dimanches à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire. Une série de 4 docs qui avait démarré avec Laurent Fabius. Ce dimanche, ce sera Jean-Pierre Raffarin. Dimanche prochain, Edith Cresson. Et enfin, le 28 juin, Alain Juppé. Mais d'abord, avant de nous dire comment vous avez travaillé, si la France savait quoi, explicitez le titre.
Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un livre formidable, enfin formidable, avec Michel Rocard qui s'appelait « Si la gauche savait ». Et il a tout mis sur la table, et pour les certains auditeurs se souviennent, ça a été un énorme succès du fait de la liberté de ton. Et j'avais envie qu'une fois, ayant quitté le pouvoir avec Patrice Duhamel, on avait envie que ces hommes et ces femmes soient plus libres, parce que quand ils sont au pouvoir, ils ont ce qu'on appelle des éléments de langage.
Bien sûr.
De plus en plus d'attachés de presse, de directeurs de la communication, enfin la fameuse langue de bois, Philippe.
Ils arrivent même parfois, je le précise, dans le studio avec des petits Bristol où les phrases sont écrites devant eux.
Alors là, c'était... Bon, ils sont à la retraite. Juppé, il est à la retraite. Fabius à la retraite. Edith Cresson et Raffarin. En tout cas, dans cette première série qui a été initiée par la chaîne Histoire, vous l'avez dit, et par LCP, on a eu le soutien de Richard Marocco et de Bertrand Delay parce que c'est des prime time faits pour ces chaînes. Donc c'est vraiment... Bon, on a eu cette confiance et ils sont arrivés. Ils sont pas arrivés avec leur petit Bristol et leur directeur de la communication. Et les yeux dans les yeux, on a essayé de les accoucher. Avec Patrice Duhamel.
Vous avez travaillé quand et où ?
On a travaillé, on les a beaucoup vus, on les a vus avant, on a préparé avant, on a fixé des thèmes, voilà les choses que vous voulez rectifier au regard de l'histoire, les choses que vous voulez approfondir. Alors, on n'est pas dans le scoop préparé, comme je l'ai dit, par les attachés de presse, on est dans l'heure de vérité. Qu'est-ce que Chirac a fait faux ? Même le fidèle Raffarin arrive à débusquer les erreurs de Chirac. Quels sont les secrets de Mitterrand pour Juppé ? Quelles sont les fautes de Mitterrand pour Cresson ? Quelle est la menace de l'Allemagne ? Enfin, ils nous ont révélé des choses qu'on ne peut pas dire quand on est au pouvoir.
Il faut raconter, c'est très très beau, c'est filmé à Matignon, à l'hôtel de Matignon, il faut dire l'hôtel de Matignon, et voilà, dans le grand salon rouge. L'émission de demain, d'après-demain, pardon, dimanche 14, est consacrée à Jean-Pierre Raffarin, qui a été Premier ministre de mai 2002 jusqu'à mai 2005, et vous commencez par relever cette singularité. Jean-Pierre Raffarin est une exception, car comme Premier ministre, il n'a jamais visé l'Élysée. Explication de l'intéressé.
Je connais la politique de l'intérieur depuis assez longtemps et j'ai vite compris que le premier cercle à présidence, c'est quelque chose qui est assez destructeur de soi-même. Vous savez, en politique, quand vous arrivez au niveau les plus élevés, vous marchez derrière votre caricature. Devant vous marche une personnalité que vous avez construite mais que les autres aussi construisent, sur lesquels les autres agissent. Et vous suivez cette personne. Et c'est pas vous. C'est cette personne qui va être jugée. C'est cette personne qui est dans les débats. Cette personne, vous avez un peu de maîtrise d'elle, mais pas complètement. Vous écoutez la radio, on parle d'elle. C'est pas vous qui parlez d'elle. Vous êtes en dialectique avec votre caricature. Et ce qui est pour un Premier ministre est 10 fois pire pour un président de la République.
Et on sent qu'il a morflé.
On sent qu'il a morflé et on sent en même temps qu'il est le moins cinglé des premiers ministres. Non, pourquoi Pardon, c'est un peu provocateur.
Si, allez-y.
C'est-à-dire qu'il y a une folie qui s'empare. Dès que vous rentrez à l'hôtel Matignon au bout de 3 mois, c'est ce que tout le monde dit, il rêve que de devenir vizir à la place du vizir. C'est la folie d'aller à l'Élysée. Ça a touché quand même Alain Juppé, il était le fils préféré de Chirac. Ça a touché Laurent Fabius dans cette collection qui était le fils préféré de Mitterrand. Eux, ils étaient programmés pour être président de la République. Et c'est des destins fracassés. Lui, Raffarin, le pépère des... Non, je dis ça avec moi aussi de l'affection, le pépère de Poitou-Charentes, il n'a jamais eu cette folie. Ouais. Il est bien dans ses baskets, il est lucide, c'est le cas. C'est probablement un des seuls premiers ministres qui n'ait pas eu cette folie de vouloir être président à la place du président. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Édouard Philippe en ce moment ? On n'en sait rien. En tout cas, dans celle de Raffarin, lui, il n'a jamais voulu prendre la place de Chirac.
De toute façon, Édouard Philippe n'a pas le droit de parler. Il a le devoir de réserve. Il a plein de boulot. Et je me souviens à propos de la caricature d'une anecdote racontée par Raymond Barre pour dire à quel point ce métier est dingue. Il est sur un marché. Il y a une dame qui vient le voir et lui dit : Monsieur Barre, je vous apprécie beaucoup, mais je dois vous dire que j'ai pas du tout aimé ce que vous avez dit hier soir au Guignol. C'est quand même complètement dingue à quel point la caricature, les gens n'ont pas intégré que c'est une caricature. Vous ne connaissez pas cette anecdote?
Elle est très bonne.
Je suis content de vous faire marrer. On va parler de plein de choses. Et alors, ce qui est absolument dingue, c'est le cas d'Edith Cresson. Vous restez avec nous, Georges-Marc Benhamou, juste après ça.
Si la France savait, c'est la collection d'entretien de notre invité, Georges-Marc Benhamou, qui, avec Patrice Duhamel, a longuement rencontré à Matignon durant l'été, l'automne 2019, quatre anciens premiers ministres. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le producteur et journaliste Georges-Marc Benhamou est notre invité ce matin pour parler de sa collection d'entretiens, Si la France savait, diffusée dimanche soir sur la chaîne Toute l'Histoire, une plongée dans les coulisses et les secrets de la 5e République.
Diffusée 4 dimanches de suite, on a parlé de l'expérience de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, ce sera diffusé ce dimanche avec ses moments de doute, ses moments de souffrance. Dimanche suivant, ce sera Edith Cresson que vous avez passé au grill à l'interview. Elle a été Premier ministre de avril 92, elle n'a même pas tenu un an à Matignon, et c'est encore pire pour elle que pour le cas de Jean-Pierre Raffarin, et c'est elle qui le dit.
Je dis qu'à Matignon, il y a deux jours qui sont agréables, le jour où on arrive et le jour où on part. Le reste, c'est l'enfer.
Ah oui, l'expression l'enfer de Matignon, vous considérez que c'est bien choisi?
Ah bah, en tout cas, en ce qui me concerne, oui.
Ce départ, pourquoi il est un soulagement?
Parce que, enfin, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pas être attaqué tous les jours, je disparais des radars.
Et on parlait de la caricature de Jean-Pierre Raffarin. À son époque, à l'époque d'Edith Cresson, il y avait le Bébé de Show qui cartonnait sur TF1. Il n'y avait que 6 chaînes, les audiences étaient prodigieuses. Et Georges-Marc Benhamou, il faut parler du personnage d'Edith Cresson tous les soirs dans le Bébé de Show.
Il faut que les jeunes voient ça, il faut que les jeunes voient ce film, il faut que les jeunes revoient le Bébé de Show.
Comment était-elle représentée?
Mais on ne pouvait pas être plus humiliant. Elle s'appelait Amabotte. Elle recevait des coups de bottes d'un Mitterrand, d'un Kerr Mitterrand dans la gueule. Enfin, c'était quand même
elle
une
était habillée
humiliation.
En panthère. Vous racontez pas tout.
Absolument.
Attendez, elle était habillée en panthère et elle était couchée au pied du bureau de Mitterrand qui lui mettait des coups de latte.
Oui, donc j'aimerais bien que les féministes d'aujourd'hui revoient ça pour voir à quel point en 25 ans on a progressé. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce que cette femme a vécu quand elle était ministre d'Agriculture.
Ah bah attendez, je vais vous le dire, voilà, parce que j'ai pris un extrait. Vous racontez votre film avant le film. Avant d'être Premier ministre, Edith Cresson a d'abord été, si j'ose dire, simple ministre. Et à l'arrivée de la gauche au pouvoir, quand Mitterrand déboule à l'Élysée en mai 81, elle est nommée ministre de l'Agriculture. Même si elle a été nommée à ce poste en connaissance de cause, elle vous raconte les réactions suscitées par sa nomination.
Moi, je connaissais un peu les problèmes agricoles parce que j'avais été au Parlement européen à la Commission de l'agriculture. Donc, je connaissais les règles, si vous voulez, européennes. Les montants compensatoires, enfin, toutes ces choses-là. J'arrive au ministère de l'Agriculture. Première déclaration du président de la FNSEA, M. Guillaume, qui dit « On voit le mépris dans lequel le président de la République tient l'agriculture puisqu'il a nommé une femme à ce poste. » Sympa, hein, ouais. Attendez, c'est pas fini. Alors, je les reçois, je les vois, et puis on me demande de venir à une réunion de la FNSEA. Il y avait un grand hall, ils étaient à peu près 800, et il y avait une grande banderole qui traversait la salle d'un bout à l'autre, comme ça, en lettres rouges, c'était écrit « Edith, on t'espère meilleur au lit qu'au ministère ».
Wow. Georges-Marc, vous vous souvenez de la réponse d'Edith Cresson dans votre documentaire? Vous l'avez tourné il y a trop longtemps.
Bon, non, il n'y a pas si longtemps, mais...
Alors la réponse était... Elle a répondu, ça tombe bien, elle leur a dit, quand elle a vu la banderole, elle leur a dit, ça tombe bien que je sois au ministère de l'Agriculture, car comme je vais avoir affaire à des porcs, je vais pouvoir m'occuper de vous.
C'est quand même incroyable, hein, je veux dire, c'est quand même incroyable. Par ailleurs, c'est une c'est un des entretiens les plus étonnants, car elle est cette femme qui a été maladroite, certes, mais qui était totalement visionnaire sur deux points qui nous concernent. Elle a vu la crise du coronavirus d'une certaine manière arriver en parlant de la désindustrialisation du pays, c'est-à-dire les industries pharmaceutiques qui se sont barrées. Et cette désindustrialisation, enfin les fabriques de masques, etc., c'était son cheval de bataille, on ne l'a pas écouté. La deuxième chose, elle nous raconte les coulisses de la négociation avec l'Allemagne au moment où on crée l'euro et comment effectivement Mitterrand cède dans un rapport de force à l'Allemagne et les coulisses de notre histoire, tout ce qu'ils peuvent raconter aujourd'hui, et c'est assez ça fait peur par moments et parfois on se dit qu'on n'a pas pu écouter certains grands visionnaires comme elle, même malgré ses maladresses elle a été une femme assez formidable.
Mais on n'est même pas au stade de l'écouter, parce que j'ai regardé attentivement le documentaire hier et il y avait des procès qui ont été faits mais totalement injustes. Par exemple, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'affaire des charters. Je vais la raconter. Un journaliste lui demande si pour les reconduites de clandestins dans leur pays elle va utiliser des avions de ligne ou des charters comme le faisait Pasqua à l'époque, et elle répond ni l'un ni l'autre. Elle précise que ce ne sont pas des charters, on voit la séquence, elle dit les charters charters, ces avions à moindre coût pour partir en vacances. Et là, ce ne sont pas des vacances. Le lendemain, toute la presse explique qu'Édith Cresson veut relancer les charters. Et même Le Monde vous montrait la une du Monde, le 9 juillet 91, ce titre « Madame Cresson envisage des charters pour expulser les clandestins ». C'est-à-dire que le type voit le reportage, elle dit « non, on va pas faire ça », il écrit « elle va faire ça ».
On se demande à quel point, à l'époque, TF1, est-ce qu'il faisait, est-ce que c'est du manque de professionnalisme, il y a 25 ans.
C'est pas TF1 ça, c'est Le Monde.
C'est
Le Monde qui voit l'émission de TF1 et qui écrit l'inverse de ce qui est dit. C'est ça qui est complètement dingue.
Oui, c'est assez effrayant. Il y a eu une chasse à cette pauvre femme qui est effrayante. Et vu d'ici 25 ans après, ça en dit long sur la société française et le chemin qu'il faut encore parcourir.
Si la France savait, on entend donc dimanche après dimanche, Fabius, Raffarin, Édith Cresson, Alain Juppé. Pourquoi ces quatre-là? C'est les seuls qui vous ont dit oui?
Ah non, on va continuer. Ah. Oui, et avec Patrice Duhamel, on s'est beaucoup amusé. On a des sensibilités, des regards différents, mais on s'est beaucoup amusé à débusquer les vérités qu'ils peuvent enfin dire quand ils ne sont plus au pouvoir.
Donc
on va continuer.
Il y aura une prochaine salve.
Je pense.
Avec qui? Vous ne pouvez pas le dire tant que ce n'est pas signé.
On prépare.
Il ne faut jamais dire avant que ce soit signé, sinon les gens vous disent
non. Oui, monsieur Vandel.
Voilà, j'ai été assez impressionné. Non, question, vous qui êtes un très fin et bon connaisseur de la politique, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris?
L'histoire secrète des 3% racontée par Fabius, le fameux 3% de déficit, pourquoi ce fameux 3%
oui, pourquoi 3
religieux
et
pourquoi pas 2 ni 4? Un moment de vérité où le très fidèle Raffarin, on ne peut rien lui faire dire contre Chirac. Il a deux dieux, ça a été Giscard et Chirac. Il dit quand même que Chirac s'est planté en 2002. Ouais. Il n'a pas compris ses 72% sont élections.
82%. Hein. J'ai pas de mérite, je l'ai vu hier le doc.
Absolument. Et qu'il ne l'a pas traduit politiquement.
Ouais. Hein, et dire que et il explique pourquoi. Il explique absolument. Très bien pourquoi. Ouais. Il explique parce qu'il fallait gagner les élections législatives et que s'il faisait l'ouverture, il perdait les élections législatives.
Et puis la chose surprenante, c'est Juppé qui font l'armure. Juppé qui peut parfois être émouvant, parfois avoir la larme à l'œil.
Ah bah celui-là, je ne l'ai pas vu. Alors celui-là, je l'ai pas vu.
Il faut les voir.
Alors les 30 premières secondes du générique sont très impressionnantes. J'ai rarement vu autant de noms ronflants. Alors là, on a Parole d'apparition, une coproduction, Siècle Production, c'est votre boîte, LCP Assemblée Nationale, avec la participation de la chaîne Toute l'Histoire, chaîne du groupe Media One, avec la participation de TV5 Monde, en partenariat avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, collection écrite par vous, Patrice Duhamel, ancien numéro 2 de France Télé, et produite par vous et Jérôme Clément, ancien patron emblématique d'Arte. Avant d'être un documentaire, c'est du réseau.
Non, c'est pas du réseau.
Oh,
c'est... Non, c'est pas du réseau. C'est de se dire comment on peut fabriquer à des prime time avec les moyens de chaînes qui ne sont pas les grandes chaînes RTN, de TF1, France 2, etc., etc. Et ça a été le courage de la chaîne Histoire de LCP avec
Lina. Non, mais il faut arriver à les mettre dans son escarcelle.
Oui, non, mais...
Parce que moi, je suis déjà appelé.
Mais aujourd'hui la politique des chaînes comme LCP ou la chaîne Histoire, c'est d'inventer leur propre prime time, donc grouper des petites chaînes avec des guillemets pour donner des moyens que parfois on n'a que dans les grandes chaînes RTN.
Merci.
Et c'est ce qu'on arrive à faire.
Merci beaucoup Georges-Marc Benhamou.